Merci d'écouter RFI, il est 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, une rencontre délicate à Washington.
Et délicate surtout pour Benjamin Netanyahou qui rencontre Donald Trump. Aujourd'hui, on verra que le Premier ministre israélien n'a pas beaucoup de marge de manœuvre face aux locataires de la Maison Blanche. Et puis on parle aussi guerre commerciale, en tout cas menace de guerre commerciale. Donald Trump suspend pour un mois son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique. À la une également les réseaux sociaux X et TikTok, plus accessible dans certaines villes et localités de République démocratique du Congo. On fera le point. Les images de la décapitation d'un soldat ukrainien par un soldat russe qui font scandale à Kiev. Et puis, en France, au procès des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, la journée d'hier consacrée à l'argentier du régime libyen, Béchir Salé, jugé en son absence.
Benjamin Netanyahou, sous pression.
Oui, le Premier ministre israélien est à Washington et il rencontre aujourd'hui Donald Trump pour évoquer la situation au Proche-Orient alors que l'accord de trêve entre Israël et le Hamas doit entrer dans la phase 2, une nouvelle phase synonyme de reprise des négociations indirectes et de nouvelles libérations d'otages, mais aussi de fin définitive de la guerre. Ce que ne souhaite pas l'extrême droite israélienne, alliée du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donald Trump, lui, devrait tenter aujourd'hui d'imposer sa propre vision de l'avenir du Moyen-Orient, autrement dit la fin de la guerre à Gaza et un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Anne Verdaguer.
Les ambitions de Donald Trump pour le Moyen-Orient se précisent. Le président américain, qui a été l'artisan du rapprochement entre Israël et quatre pays arabes lors de son premier mandat à travers les accords d'Abraham, cherche à les étendre. Il souhaite une normalisation entre l'État hébreu et l'Arabie Saoudite qui permettrait de rapprocher les deux principaux alliés des États-Unis dans la région. Mais le Royaume met ses conditions et veut une solution viable pour les Palestiniens qui pourrait déboucher sur la création d'un État palestinien. Donald Trump a mis cette question sous le tapis et veut simplement que toutes les phases de la trêve soient mises en place au plus vite. Le Premier ministre israélien vient lui obtenir à Washington un soutien total à sa politique vis-à-vis des Palestiniens, mais il est dans une situation délicate au sein de sa coalition. L'extrême droite réclame une reprise des combats dès la fin de la première phase de l'accord de paix à Gaza début mars. À défaut, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, menace de quitter le gouvernement, ce qui priverait Benjamin Netanyahou de majorité. Sa venue à Washington pourrait donc l'obliger à choisir entre le sauvetage de sa coalition et la relation privilégiée d'Israël avec le président américain.
Les précisions d'Anne Verdaguer.
Donald Trump, très satisfait de ses discussions hier avec le Canada et le Mexique.
La méthode Trump à l'œuvre, d'abord le rapport de force, puis les négociations. Le président américain a finalement suspendu pour un mois son projet d'imposition de droits de douane de 25% au Canada et au Mexique. En échange, le Canada s'est notamment engagé à renforcer la lutte contre le trafic de fentanyl, un opioïde meurtrier, et lancera également une force d'intervention conjointe avec les États-Unis contre le crime organisé. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est engagée, elle, à envoyer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec les États-Unis. Reste à savoir désormais si Donald Trump va exécuter son projet contre la Chine, à qui il menace d'imposer 10% supplémentaires sur les droits de douane déjà existants. Ces nouveaux droits de douane doivent entrer en vigueur aujourd'hui. Des discussions avec la Chine vont intervenir probablement dans les prochaines 24 heures, déclare Donald Trump. Un climat de tension commerciale qui inquiète en premier lieu les consommateurs américains. Écoutez ce reportage à Atlanta d'Edouard Maille.
Joshua sort du supermarché avec son sac de courses. Pour le quadragénaire, ce sont les consommateurs qui vont payer le prix d'une hausse des droits de douane.
Je ne vois pas comment les droits de douane vont être une solution pour baisser le coût de la vie. Les frais vont éventuellement être à notre charge si on taxe les importations. Ça retombera sur les consommateurs, comme moi.
Les États-Unis dépendent fortement du Mexique et du Canada pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Le Mexique est le plus important fournisseur de légumes et de fruits, tandis que le Canada envoie le plus de viande et de céréales. Smiley tire son chariot rempli de produits. Le retraité anticipe déjà devoir faire des concessions avec une éventuelle hausse des prix.
Ça va nous coûter beaucoup de dollars qu'on aurait pu utiliser autrement. Je vais devoir acheter moins de choses et faire le tri pour garder les produits qui sont vraiment importants.
Une autre personne, la cinquantaine, regrette que ces mesures toucheront en particulier certaines parties de la population.
Les frais de douane augmentent le prix des produits du quotidien dont la classe moyenne a besoin pour survivre.
Selon une étude du think tank PIIE, les hausses des droits de douane sur les importations du Mexique, du Canada et de la Chine pourraient coûter en moyenne 1 200 $ par an aux ménages américains. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Les réseaux sociaux X et TikTok plus accessibles dans certaines villes et localités de République démocratique du Congo. Oui,
depuis samedi dernier, de nombreux internautes utilisant un VPN se sont plaints de l'accès restreint à ces plateformes. Situation rapportée par des usagers à RFI, notamment à Goma, Lubumbashi, Bukavu, mais aussi à Kinshasa. Alors que les forces congolaises sont toujours aux prises avec le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda, Goma est sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises, selon les autorités congolaises. Hier soir, le ministre de l'Intérieur congolais a assuré que ces coupures Internet étaient dues à des questions techniques. Ça va revenir vite, a-t-il déclaré. Mais certains observateurs jugent que cette mesure, prise dans le contexte de guerre informationnelle, pourrait fortement pénaliser le Congo, Paul Lorgerie.
Dimanche, Ange Kasongo, éditrice en chef du site congolais de vérification des faits Balobaki, ouvre l'application X, mais un message d'erreur s'affiche en lieu et place de son fil d'actualité.
C'était assez surprenant hier, je pense en fin de matinée, de se rendre compte que je ne pouvais pas accéder à Twitter, à actualiser le fil Twitter. Quand j'ai essayé d'activer mon VPN, et là ça marchait.
À Goma, à Lubumbashi, à Kalemie et à Bukavu, ainsi qu'à Kinshasa, les usagers que nous avons contactés n'ont en effet plus accès à ces plateformes depuis samedi. Selon NetBlocks, un observatoire indépendant de surveillance de la cybercriminalité et de la gouvernance numérique, les données recueillies montrent que le Google Play Store est désormais restreint en RDC, dans le but apparent d'empêcher les utilisateurs de télécharger des applications VPN afin de contourner les restrictions ciblant X et TikTok. Un tableau partagé par l'organisation informe que les accès à ces réseaux sociaux ont tout bonnement été coupés. Une mesure dangereuse, alerte Kemal Afanyon, coordinateur de l'ONG Internet sans frontières en Afrique de l'Ouest.
Les gens veulent prendre des informations pour se rassurer, mais quand vous coupez Internet, ça facilite par exemple la circulation de rumeurs, ce que ces autorités prétendent vouloir empêcher.
Un constat partagé par Ange Kasongo, qui craint que les fausses informations concernant la guerre à l'est du pays ne puissent plus être réfutées.
Paul Lorgerie, rappelons que les autorités congolaises imposent aux médias, dont RFI, des règles restrictives sur la couverture du conflit en cours dans l'est de la RDC. À noter par ailleurs qu'hier soir, un nouveau bilan des affrontements à Goma a été avancé par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui évoque 900 morts, mais avec encore de nombreux corps non décomptés. Dans ce contexte, les deux organisations régionales de l'Afrique de l'Est, l'EAC, et de l'Afrique australe, la SADC, organisent samedi prochain un sommet commun à Dar es Salaam. Le président kényan William Ruto affirme que les présidents congolais et rwandais lui ont confirmé leur présence. RFI a obtenu confirmation de la présence de Paul Kagame côté rwandais.
La photo a fait le tour des réseaux sociaux russes et ukrainiens.
Et une nouvelle fois, elle choque à Kiev. Elle montre un soldat russe tenant entre ses mains la tête décapitée d'un soldat ukrainien. Kiev annonce avoir déjà ouvert une enquête. À Kiev, les précisions d'Emmanuel Chaz.
C'est une nouvelle photo qui choque la société ukrainienne et Arthur Dobroserdov, le commissaire aux personnes disparues, a annoncé que le soldat ukrainien qui y figure a depuis été identifié. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances de cet acte commis s'il est avéré en violation totale des conventions et traités internationaux sur le traitement des prisonniers de guerre. Au sujet de cette apparente exécution mise en scène par les Russes, Kiev demande de ne pas faire circuler d'informations non vérifiées, mais cette énième scène d'horreur s'ajoute à une liste déjà longue de cas similaires d'exécution de soldats ukrainiens, près de 180 cas faisant l'objet d'une enquête. Ce n'est pas la première fois que des images de décapitation circulent en Ukraine. En juin et en août dernier, d'autres victimes avaient connu le même sort, tandis que d'autres soldats visiblement déjà faits prisonniers ont aussi été exécutés sommairement de façon individuelle ou en groupe. Ceci va à l'encontre de la 3e Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Reste que Kiev et les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Depuis 2024, les cas d'exécution de soldats ukrainiens non armés et déjà prisonniers sont en forte augmentation. Emmanuel Chasse, Kiev, RFI.
En France, cinquième semaine au procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy.
Hier, le tribunal s'est penché sur un épisode concernant l'un des prévenus absents, Béchir Salé, l'argentier de Mouammar Kadhafi exfiltré en France après la chute du régime fin 2011. Quelques mois plus tard, alors que les premières révélations sur l'affaire libyenne viennent d'éclater et que Nicolas Sarkozy joue sa réélection, Béchir Salé est à nouveau exfiltré, cette fois hors de France, avec l'aide de son ami et co-prévenu, l'intermédiaire Alexandre Djouri, et la participation d'un certain Bernard Squarcini, alors patron des renseignements intérieurs français. Compte rendu d'audience avec Laura Martel.
3 mai 2012, Béchir Salé et Alexandre Djouri retrouvent Bernard Squarcini non loin de la Tour Eiffel. Dans la foulée, Salé s'envole pour le Niger dans un jet affrété par Djouri. La veille, Nicolas Sarkozy avait indiqué que l'argentier libyen, visé par une notice rouge pour des accusations de détournement en Libye, serait remis à Interpol. L'hypothèse de l'accusation est qu'il est exfiltré car il connaît des secrets sur le financement libyen, rappelle la présidente. Rien à voir, selon Alexandre Djouri, il n'y croyait pas, il me disait que s'il existait des preuves, elles auraient été exposées, soutient-il. Quand Béchir Salé a lui déclaré en 2017, Kadhafi a dit qu'il avait financé la campagne, Sarkozy que non, je crois plus Kadhafi que Sarkozy. Mais selon Alexandre Djouri, la seule urgence pour son ami était de répondre aux appels pressants du président Issoufou d'aller à Niamey. Le passeport de Béchir Salé ne cause pas d'alerte sur le fichier des personnes recherchées, le vol n'est pas enregistré, il voyage sous votre nom, on a le sentiment que Bernard Squarcini a donné des instructions pour un départ sans encombre, pointe le procureur. Il est parti tranquillou, balayer l'intermédiaire, et si Bernard Squarcini était là, c'est qu'il avait peur de perdre sa source et voulait savoir quand il allait revenir. C'est finalement vers l'Afrique du Sud que part Béchir Salé, où il sera blessé par balle en 2018. Son absence au procès n'a toutefois rien à voir avec des craintes pour sa vie, assure Alexandre Djouri. C'est juste qu'il n'a pas confiance en la justice française.
Laura Martel, la culture avec l'actrice française Juliette Binoche, qui présidera le jury du 78e festival de Cannes. L'annonce est tombée ce matin. On va y revenir dans le journal de 7h et puis de la musique avec la chanteuse et auteure rwandaise Bukuru. Elle fait partie des 10 finalistes liste du prix Découverte RFI 2025 que nous vous présentons chaque jour pendant les deux prochaines semaines. José Marigno.
Je m'appelle Christiane et mon nom de scène c'est Bukuru. Je suis une artiste née et élevée au Rwanda. Votez pour moi, vous ferez un grand cadeau au monde.
Une fenêtre ouverte sur l'avenir, voilà comment Bukuru définit sa musique qui mélange jazz, gospel et indirimbo, le chant traditionnel de son pays, le Rwanda. À 27 ans, Bukuru compte déjà sur une dizaine d'années de pratique musicale et une sacrée expérience vocale. Elle a publié un premier album très apprécié en 2024. Originaire de Kigali, Bukuru chante dans sa langue, le Kinyarwanda, en français et aussi anglais. Elle raconte la dure réalité de son pays, mais également la solidarité et surtout son parcours et la place de la femme africaine. Ce qui frappe dans sa plume, c'est sa capacité à capturer l'intime tout en abordant des questions collectives.
Marigno est le nom du vainqueur du prix RFI. Découverte sera annoncée le 18 février prochain.
Merci Jeanne Bartoli, on y revient dans notre choix musical juste avant 9h. 6h13 à Paris, RFI Matin, mardi 4 février. On est ensemble jusqu'à 9h et au programme ce matin, la République démocratique du Congo. On fait le point dans nos journaux sur la situation dans l'est du pays, alors que selon les autorités congolaises, Goma est sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises, alors que les Nations Unies ont fourni un nouveau bilan des affrontements de la semaine dernière dans la capitale provinciale du Nord Kivu. 900 morts, dit Lotcha, Goma ou le marché Kitoku à Rovérière.
Je suis venue me ravitailler avec du sombé, des légumes ou encore des haricots. Nous étions dans nos maisons depuis une semaine sans pouvoir sortir et sans nourriture. Nous sommes contentes d'avoir accès à ces denrées, même si les prix ne sont pas encore revenus à la normale.
Ce reportage a écouté en intégralité à 6h30 et nos points sur la situation dans nos différentes éditions ce matin et sur notre site rfi.fr. RFI Matin, on revient aussi ce mardi sur cette rencontre prévu aujourd'hui entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le président américain et le premier ministre israélien. Ce sera notre dossier dans le journal de 8 heures. Nous appellerons aussi David Thompson. Donald Trump très satisfait de ses discussions hier avec le Canada et le Mexique. C'est ce qu'il a déclaré, le président américain, après moult négociations. L'imposition des droits de douane supplémentaires contre ces deux pays a été suspendue. Prochaine cible, la Chine, plus tard l'UE ou encore l'Australie. Notre correspondant à Sydney nous en parle tout à l'heure à 8h15. Autre priorité pour Donald Trump, l'Ukraine. Nous appellerons Emmanuel Chaz à Kiev à 8h20. RFI Matin au programme également le sport, la presse, nos chroniques, nos invités jusqu'à 9h. Le Canada et le Mexique exemptés donc de droits de douane supplémentaires, et cela pour un mois grâce à des accords de dernière minute qui prévoient notamment de renforcer les contrôles aux frontières pour mieux limiter l'afflux de migrants et de fentanyl. La lutte contre cet opioïde meurtrier qui fait des ravages aux États-Unis, c'est l'une des justifications brandies par Donald Trump pour ses menaces de nouvelles taxes. La Chine est particulièrement visée dans ce domaine. Pour le président américain, le Parti communiste chinois a subventionné et encourager les entreprises chinoises à exporter du fentanyl et des précurseurs chimiques connexes utilisés pour produire des opioïdes synthétiques vendus illicitement aux États-Unis. Bonjour Cléa Broderstrom.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin. Cléa, pourquoi Donald Trump invoque le trafic de fentanyl pour justifier les droits de douane envers la Chine ?
Eh bien, avant 2019, la Chine était le principal producteur de fentanyl et d'analogues de fentanyl illicites qui étaient souvent expédiés directement aux États-Unis par la poste ou par des courriers privés. Et puis à cette date, la Chine a classé toutes les substances liées au fentanyl comme substances contrôlées. Les entreprises chinoises n'exportent pas directement du fentanyl en quantité importante, mais plutôt des précurseurs et des pré-précurseurs, c'est-à-dire les principaux ingrédients de la drogue et ceux qui sont nécessaires à leur fabrication, qui sont ensuite transformés en fentanyl par les cartels mexicains. Et malgré l'interdiction de toute production non autorisée de fentanyl en Chine, ça n'a fait que déplacer le problème. Les entreprises chimiques ont commencé à exporter les matières premières à la place.
Alors, malgré l'escalade des tensions, la lutte contre les stupéfiants est l'un des rares domaines de coopération entre les deux puissances.
Et oui, toujours en 2019, un rare effort de coopération entre la Chine et les États-Unis a permis de démanteler un réseau de contrebande de fentanyl. Et après une enquête conjointe entre agences chinoises et américaines, un tribunal chinois a condamné un trafiquant à la peine de mort avec sursis pour avoir expédié justement cette drogue vers les États-Unis. Mais les efforts de coopération ont été sabrés à plusieurs reprises, par exemple en 2022, après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Alors pour continuer les efforts, la Chine pourrait exiger aujourd'hui des concessions diplomatiques ou commerciales, telles que la levée des sanctions ou le retrait de la liste américaine des principaux pays producteurs de drogue.
Alors, qu'a fait la Chine, Cléa, pour tenter de remédier à ce problème ?
Eh bien, on l'a dit, la Chine a pris certaines mesures pour réglementer le fentanyl et ses précurseurs, mais le problème, c'est que l'application de la réglementation est incohérente et dictée par des considérations politiques. La Chine dispose d'énormes capacités de surveillance de l'Internet, on le sait, mais ne les a pas entièrement déployées contre les trafiquants de fentanyl. Et de nombreuses entreprises chinoises font encore de la publicité en ligne pour les précurseurs, souvent en utilisant WeChat ou des numéros de téléphone chinois. Et même si certains sites sont supprimés, de nouveaux apparaissent très rapidement.
Et quels sont les risques ?
Eh bien, la lutte contre le fentanyl en Chine se heurte à un obstacle majeur, l'ampleur de son industrie chimique. C'est un secteur clé de l'économie chinoise où de nombreux précurseurs de fentanyl ont aussi des usages légitimes, notamment dans l'industrie chimique et pharmaceutique, comme certains médicaments du quotidien, par exemple. Alors, restreindre leur production pourrait aussi avoir des effets en cascade qui fragiliseraient d'autres secteurs et qui aggraveraient la crise économique du pays. Un durcissement des mesures poserait aussi un risque géopolitique. Plutôt que d'éradiquer le trafic, il pourrait simplement le déplacer. C'est-à-dire que l'Inde, avec son industrie chimique florissante ou encore l'Asie du Sud-Est, pourrait devenir les nouvelles plaques tournantes du marché des précurseurs. En d'autres termes, même avec une répression plus stricte ici en Chine, la crise du fentanyl pourrait bien perdurer sous une autre forme et ailleurs.
Merci Cléa Broderst, en direct avec nous de Pékin. Donald Trump, la suspension de son projet d'imposer des droits de douane au Canada et au Mexique, sa relation avec la Chine, la guerre commerciale qui n'est pas la seule menace brandie par le président américain. D'autres concernent notamment la défense. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À ce propos, ce matin à 7h20, votre invité est l'eurodéputé, également premier vice-président de la commission de la sécurité et de la défense du Parlement européen, Christophe Gomard.
Oui, le général Christophe Gomard Comard a servi sous les armes durant 36 ans, général de corps d'armée, directeur du renseignement militaire, commandant des opérations spéciales françaises. Il s'est depuis lancé en politique et a été élu député européen sous les couleurs des Républicains en juin dernier. Il est donc depuis quelques jours maintenant premier vice-président de la commission sécurité et défense du Parlement européen. On le reçoit ce matin au lendemain d'un sommet européen spécial à Bruxelles. Les dirigeants des 27, le premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN ont parlé de défense européenne. Le retour de Trump à la Maison-Blanche, vous le disiez, Andréane, a changé la donne, puisque le président américain réclame aux Européens de dépenser plus pour leur défense. Sous la pression américaine et face à la menace russe, quelles réponses européennes? On en parle avec Christophe Gomard tout à l'heure.
À 6h20, temps universel. À tout à l'heure, Arnaud. En France, c'est une pièce unique actuellement en restauration et qui sera présentée au public parisien au printemps, le Vishnu du Mébon occidental. C'est l'un des plus grands bronzes jamais retrouvés encore en 1936, plus de 5 mètres à l'origine, qui représente le dieu hindou Vishnu allongé sur l'océan de l'éternité. Laurence Théo l'a observé en avant-première.
Il est posé sur un chariot dans une salle du laboratoire art quantique. Le grand Vishnu en impose par sa douceur. On le dirait sur un lit d'hôpital. Seule est exposée la partie supérieure de la statue, comprenant la tête, les deux bras droits et le haut du torse. Le tout dépassant tout de même les 2,20 m de long. À son chevet, Stéphane Lemoine paraît bien petit, tant ce bronze est monumental. Ce spécialiste des métaux participe à la restauration. Il faut d'abord nettoyer du ruban adhésif blanc des limites les petites zones carrées sur lesquelles il faut intervenir.
On voit déjà qu'il y a un état d'encroûtement localisé sur les surfaces corrodées qui retiennent donc du sédiment d'enfouissement et qui nuisent à la lisibilité globale des modelés de l'œuvre. Donc on peut choisir de retirer plus ou moins ces encroûtements, notamment par des moyens mécaniques, afin de tenter de retrouver la surface qu'avait l'objet au moment de son abandon, au milieu du XVe siècle. Il faut imaginer qu'à l'époque, l'intégralité de la surface du Vishnu était dorée. Ce qui veut dire que aujourd'hui il est vert parce que la fine dorure, qui était une dorure appliquée avec du mercure, a disparu très rapidement durant l'enfouissement. Il en reste des parcelles, mais il faut imaginer que cette statue aujourd'hui verte était à l'époque intégralement dorée.
Entièrement dorée donc, le Vishnu flamboyait. Mais ce n'était pas tout. Il y avait de la polychromie sur les sourcils, les yeux, la moustache. Les lèvres étaient rouges. Trésor du Musée national du Cambodge à Phnom Penh. Chef-d'œuvre inégalé de l'Arc Mer, ce Vishnu couché, qui date du XIe siècle, captive Yannick Lins, c'est la présidente du musée Guimet, elle a fait le déplacement.
Vishnu, en tant que personnalité, était évidemment une des grandes divinités du panthéon religieux du Cambodge et de toute l'Asie du Sud-Est. Donc spirituellement et religieusement, une divinité d'une très grande importance. Et puis, comme c'est le cas dans notre histoire de l'art, les grandes œuvres religieuses sont aussi des grandes œuvres d'art. Et ce grand bronze monumental de ce Vishnu couché qui résidait au milieu du temple que l'on appelle le temple du Mébon à Angkor, c'est aussi symbolique que la Joconde du Louvre.
On quitte à regret ce Vishnu souriant et la sérénité qu'il dégage, mais on pourra le retrouver lors d'une exposition exceptionnelle sur les bronzes Khmer. Elle se tiendra au musée Guimet en avril prochain.
Un reportage de Laurence Théo.
RFI Matin.
Puis maintenant, tout de suite, notre question d'environnement. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
On fait le tour avec vous des leviers d'action pour une alimentation plus saine et plus durable. Un défi, hein, sachant que les systèmes alimentaires génèrent près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Agriculture industrielle qui épuise la nature, qui pollue, trop grande consommation de viande et donc déchets, gaspillage, etc. Concrètement, aujourd'hui, les systèmes alimentaires dans leur ensemble sont à bout de souffle.
Oui, le modèle agricole dominant, intensif et basé sur les produits chimique n'est pas durable. Entre les émissions de gaz à effet de serre, dues au pé et au rôt des vaches notamment, la déforestation massive, les pollutions aux pesticides et l'irrigation qui représentent 70% de la consommation douce dans le monde, d'eau douce dans le monde. À l'autre bout de la chaîne, dans l'assiette, la malbouffe entraîne obésité, cancer, diabète, entre autres. Alors qu'en parallèle, une personne sur 11 souffre de la faim dans le monde, on comprend qu'il faut évoluer.
Un tableau peu réjouissant, mais il existe des leviers à chaque étape pour changer tout ça.
Oui, d'abord, diversifier la production dans chaque ferme, multiplier les types de semences pour favoriser la biodiversité notamment, aller vers l'agroécologie pour résister aux effets du changement climatique et limiter les besoins en produits chimiques, réutiliser les fumiers pour enrichir les sols au lieu de les jeter à la mer et polluer l'eau. Il faut aussi que l'industrie et la publicité mettent en avant les produits sains avec des prix bas pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Le prix est d'ailleurs le principal argument d'achat pour la plupart des gens qui vont faire leurs courses au supermarché. Autre levier, faire attention au gaspillage. 30% des superficies agricoles du monde servent chaque année à produire de la nourriture gaspillée ou qu'on égare entre deux étapes de transport ou de transformation.
Il va aussi falloir, Jeanne, se résoudre à moins manger de viande.
On le disait, l'élevage est source de pollution et de gaz à effet de serre, surtout l'élevage de bœuf. L'idée est donc d'en manger moins et cela, c'est surtout un problème des pays riches. Chaque Français consomme plus de 84 kilos de viande par an. Aux États-Unis, c'est 127 kilos par personne. Avec la hausse du niveau de vie, en Chine, la consommation de viande a bondi, 65 kilos par personne et par an aujourd'hui. À l'autre bout du classement, c'est en Éthiopie, avec un peu moins de 5 kilos de viande par personne chaque année, qu'on en mange le moins. Il faut donc valoriser les repas à base de légumineuses, l'industrie, les supermarchés, évidemment les consommateurs et les agriculteurs. Tout le monde a sa part à jouer. L'action collective est cruciale pour réussir.
Et pour enclencher vraiment le changement, il faut aussi de la volonté politique.
Et oui, car les très puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire n'ont pas intérêt au changement. Et ils ont accès aux décideurs et pèsent de tout leur poids pour les convaincre. Et s'il y a eu de grandes avancées, en Europe par exemple, avec les nombreuses lois du pacte vert, on voit depuis plusieurs mois un fort recul de l'ambition pour rendre l'agriculture et l'alimentation saines et durables.
Merci Jeanne Richard, c'était la question d'environnement sur RFI. Allez, juste avant le journal Afrique, un petit passage par notre playlist du mois. Walter Astral ce matin et le titre Zénith.
Où es-tu passé le zénith? Pourquoi d'un vide? nuages, tu t'éclipses.
Walter Astral et le titre Zénith, c'est à retrouver sur la playlist RFI de ce mois de février sur toutes les plateformes d'écoute.
Au-dessus du monde, tu m'évites. Où es-tu passé le zénith? Pourquoi d'un virage tu t'éclipses?
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Demain,
la septicémie, une infection à traiter en urgence absolue.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.